Direction la Presqu'île, maintenant la rue des Marronniers, le théâtre du même nom. Nous étions déjà allés voir la magnifique pièce Trace de Grégoire Blanchon. Nous y sommes retournés pour une pièce de même qualité. Chambre avec vue sur le fond des mers, spectacle écrit par Estelle Baudou et mis en scène par Claudine Charnay, dont il faut, je pense, souligner le travail à ces deux jeunes filles très talentueuses. Ce qui se joue dans Chambre avec vue sur le fond des mers, c'est la vie intérieure du dramaturge Henrik Ibsen. Une vie peuplée de femmes, ses proches et ses héroïnes emmêlées pour le temps de la représentation. Les chambres sont ces lieux, passages, qu'investissent successivement les acteurs virevoltants d'un texte à l'autre. Ce sont les décors qu'ont créés les metteurs en scène pour l'œuvre d'Ibsen et qui sont présents sur scène sous forme de maquettes réalisées par Léa Millot qui s'allument et s'éteignent pour nous faire passer d'une pièce à l'autre, d'une atmosphère à une autre. Le fond des mers, lui, par nature, reste un mystère. Un homme et quatre femmes incarnent quelques-uns des grands textes du dramaturge pour ce spectacle, lâchant de temps à autre quelques bribes sur la vie d'Henrik Ibsen. Cinq magnifiques acteurs, je crois qu'on peut le dire, surtout Fanny Bloch, parfaite Hedwig dans Le Canard Sauvage et magistrale Hedda Gabler, et Amélie N., que j'ai reconnue avec plaisir sur la scène du Théâtre des Marronniers, toujours aussi magnifique, elle qui éblouissait dans La fille qui flambe, pièce inoubliable, mise en scène l'année dernière en novembre, en Théâtre Cantor, par Joséphine Chaffin, une pièce bouleversante, à bien des égards, aussi proche de la perfection que cela est possible. Alors on peut dire qu'Amélie N. sait choisir ses projets, en assumant ici le rôle d'Ella, jeune fille fantasque puis femme blessée. Elle s'est vraiment pas trompée et elle fournit une prestation d'une force étonnante. Alors j'oublie évidemment pas Élodie Musel, Élise Clara Cordé et Maxime Roger qui complètent avec magnificence cette distribution. J'ai pour ma part beaucoup aimé, vous l'avez compris, Chambre avec vue sur le fond des mers, mais je ne suis que l'animateur ici. Place aux critiques maintenant et je me tourne vers toi, Caroline. As-tu autant apprécié que moi cette pièce ?
J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. Oui, je commence en citant Baudelaire, et c'est presque pas un hors-sujet, puisqu'un de ses poèmes est déclamé par Henrik Ibsen dans Chambre avec vue sur le fond des mers.
Oui, il y a une passante.
En fait, il serait pertinent de parler de la relation de cette œuvre originale avec les pièces d'Ibsen dont elle intègre des extraits et la biographie du dramaturge. Mais petit 1, j'y connais rien. Petit 2, la présentation disait qu'on pouvait apprécier et comprendre la pièce sans connaître l'œuvre et l'homme.
Et je confirme.
Voilà. Et petit 3, j'avais aussi la flamme de regarder sur Wikipédia.
Ah bah bravo.
Bon, du coup, je vous parle de l'espace.
C'est pas mal.
Cette pièce, c'est un peu des poupées russes inversées. Plus on avance, et plus c'est grand. C'est le sac sans fond de Mary Poppins ou l'armoire de Narnia. Oui, parce que je tenais à trouver des métaphores qui n'étaient pas déjà énoncées dans la plaquette. Donc, on a une heure et des poussières comme cadre, un mouchoir de poche pour espace. C'est vraiment très petit, le théâtre des Marronniers.
C'est vrai.
Et là-dedans, une profondeur et une densité incroyables, sur un rythme pourtant jamais précipité. Dès le départ, avec les maquettes qui ont été présentées comme le fil rouge du spectacle, on s'attend à un jeu avec l'espace et la perspective. Et pourtant, j'ai été surprise. Après avoir entendu l'interview d'un spectateur, j'imaginais, avec mon sens de l'orientation toujours infaillible, que la fameuse porte qui reste fermée se situait face au spectateur, pour donner une impression de profondeur, un peu comme dans une peinture. En fait, elle se trouve sur le côté. C'est par elle que John Gabriel Borkman quitte la scène et la vie. C'est aussi par elle que se fait la sortie de la salle. En tant que spectateur, on entre côté cour, mais on ressort côté jardin. En fait, vu l'espace disponible, on entre côté bac à sable, on ressort côté bac à fleurs. C'est comme si on faisait que traverser la vie des personnages, nous autres qui sommes enfermés dans l'axe d'une dimension unique, alors que leur univers s'épanouit dans les trois dimensions, en plus de toutes les autres qu'inventent les mathématiciens. Comme le soulignent avec humour les comédiens à la fin, lorsqu'ils se placent derrière l'établi, puis derrière la planche en bois entre les rappels, la scène n'a pas de profondeur physique. C'est tout petit. Et pourtant, si. Le tabouret placé en avant côté cour délimite ce qu'on peut appeler l'espace biographique des confessions de Susanna ou Henrik. Le coin côté jardin est le domaine d'Edwige Hedda, laquelle se cache si parfaitement derrière son coffre que sa voix fait sursauter dans la première scène. Du coup, je me suis aussi fait avoir par la planche en bois côté cour. Je pensais que Gunhild se cachait vraiment dans l'angle. Et ce n'est qu'en voyant les cinq acteurs disparaître derrière à la fin que je me dis qu'il y avait peut-être une porte.
Ouais, c'est pas possible. Hein.
Voilà. Entre les deux, il y a l'établi, un espace qui semble malléable à souhait par le jeu. C'est comme si on voyait vraiment les personnages gravir des collines ou observer un pont. C'est assez incroyable. Et puis, il y a la verticalité créée par les escaliers dans les maquettes, les références au grenier où campent de beaux livres illustrés et un John Gabriel Borkman faisant les 100 pas. Mais aussi par des références mystérieuses à des concepts ou des êtres qu'on ne doit pas nommer. Un canard sauvage, un cheval blanc, le pronom « lui » appliqué à Borkman ou au mari d'Eda, que l'on écrirait avec une majuscule. Je crois que c'est cette échappée verticale du sens qui permet à la pièce d'être aussi profondément touchante. Le jeu des acteurs est excellent, le rire, la poésie et le tragique sont savamment dosés, l'espace scénique et les accessoires défient les lois de la physique, les raisons logiques ne manquent pas pour apprécier la pièce et la trouver extrêmement riche. Pourtant, dans la scène finale, après la mort de Borkman, Susanna va lentement ranger toutes les maquettes dans leurs étuis originaux, en laissant leur petite lueur briller par les interstices, puis éteint la lumière. Et moi j'avais envie de pleurer, et aucune idée pourquoi, il n'y avait même pas de violon. Ça ressemblait un peu à ce sentiment qu'on a en refermant un roman ou un livre de contes. On refuse de toutes ses forces que le rêve prenne fin, et pourtant, comme le dit Ella, cela vaut mieux ainsi. Comme si les personnages ne pouvaient exister en toute leur épaisseur qu'une fois qu'on les enferme dans un espace matériellement restreint, mais virtuellement infini, le livre. Et je conclurai, de façon tout aussi contradictoire, que le spectacle mérite par sa qualité une salle et un public bien plus grand, mais qu'il devrait aussi rester éternellement dans cette parfaite petite boîte à chaussures au Théâtre des Marronniers.
Merci beaucoup Caroline. Et je me tourne vers toi Will, parce que je crois que tu as un peu moins apprécié le spectacle.
Oui, alors pour être exact, j'ai beaucoup apprécié le spectacle, c'est vrai. Mais c'est quand après je me suis mis devant ma page blanche et que je me suis dit écris une chronique pour ce spectacle, j'étais un petit peu embêté. Parce que oui, je suis d'accord qu'on passe un très bon moment dans le Théâtre des Marronniers qui a d'ailleurs de très bonnes pièces, comme tu as dit, il y avait Trace qui était magnifique. Il y a des acteurs formidables qui ont une vraie joie d'être sur la scène. Cependant, je pense que c'est vrai que c'est une pièce qui m'a donné beaucoup envie de découvrir Ibsen et que je pense que ça tient aussi au petit côté Manuel Lefrançais qu'avait la pièce. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que on avait à certaines parties voilà la biographie d'Ibsen, donc on racontait un petit peu sa vie. Et juste après, comme on mettrait dans un manuel Lefrançais, après un larmoyant paragraphe sur la vie difficile de Jules Laforgue, deux sonnets des complaintes et quelques vers du concile féerique, là on avait l'illustration de quelques scènes. Alors je suis d'accord, c'était très bien joué, notamment celle tirée de la pièce éponyme John Gabriel Borkman. C'était vraiment la longue scène était très bien adaptée, très belle. Mais du coup, je pense qu'il manquait un petit peu de cohérence quand même dans le choix des scènes. C'est un bon choix, puis c'est vrai qu'on voyait toute la palette d'Ibsen, entre le comique, le tragique, le satirique, etc. Mais pour moi, il manquait d'un petit peu de lien.
Ça faisait trop anthologie pour toi.
Voilà, ça faisait un petit peu anthologie d'Ibsen, même si il y avait des très bonnes sorties que j'ai beaucoup appréciées, notamment il y a deux phrases qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est l'artisanat du Moyen-Âge, L'artisanat du Moyen-Âge, il n'y a rien de plus barbant.
Ah, on va faire son malin. Eh ben, je vais pas le couper, celle-là.
Non, mais faut quand même avouer que ça mériterait de devenir proverbial, je pense. Et ensuite, il y en a une autre qui porte à réfléchir et qui aussi est très drôle. C'est le poète est comme un homme qui prend un bain. Alors là, moi, je peux te dire que quand je m'imagine Victor Hugo avec un canard en plastique en train de rédiger la Légende des siècles, je me marre. C'est incroyable. Donc voilà, non, c'est une bonne pièce qui donne envie d'en voir plus. Et je dirais Franco de Port. Je recommande vivement d'aller voir cette pièce au Théâtre des Marronniers.
Merci Will. Et je me tourne vers la dernière chroniqueuse qui est allée voir cette pièce, ma complice Marie-Ève. Qu'en as-tu pensé ? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec Caroline ou tu as certaines réserves comme Will, même s'il a beaucoup apprécié aussi ?
Alors je vais tenter de faire la synthèse des deux si c'est possible. Et je commencerai moi aussi avec une petite citation, mais cette fois-ci de la pièce. Vois et transmets ce que tu as vu, vois et transmets ce que tu as vécu. C'était là l'ambition littéraire d'Henrik Ibsen, mentionnée lors du moment de la pièce qui nous plonge dans la réflexion sur le travail de l'écrivain. Et je vais tenter très modestement, comme mes deux acolytes ici, et pour ma première chronique culturelle, au micro de Thomas, de faire cette citation mienne. Et je vais tout simplement vous partager mes impressions, car je ne suis pas grande théoricienne, mais j'ai juste envie de vous raconter comment j'ai vécu
bien,
ce spectacle.
Ça tombe bien, c'est en spectateur, pas en critique. Ça marche
c'est
bien.
Parfait. Et donc ce spectacle, en étant axé autour du rapport d'Ibsen avec les femmes, comme tu l'as souligné Thomas, qu'elles soient réelles ou fictives, présentes dans sa vie ou héroïnes de ses œuvres, m'a particulièrement touchée dans mon essence même de jeune fille sensible, un peu romantique sur les bords, et de femme en devenir. Et je vais donc vous partager ces quelques émotions. Ce qui m'a touchée d'abord, c'était la simplicité. À la fois du cadre, et je ne vais pas y revenir longuement, tu as déjà bien développé ce que je voulais dire, Caroline, des personnages eux-mêmes et des acteurs aussi. Et Thomas, tu m'avais prévenu justement en me houspillant un peu à l'entrée, parce que j'étais légèrement en retard, que la salle était petite, ou presque, j'arrive toujours pile à l'heure.
Xavier en régie, au pied du chef.
La vie de Xavier ne compte pas.
Oh bah. Que... Je pense qu'il peut te couper le micro par représailles.
Mais il y a des Kinder dans mon sac. Donc, Thomas, tu m'avais prévenu que la salle était vraiment très petite. Et effectivement, elle l'était. Et je ne citerai pas Caroline, je te laisserai nous dévoiler la saveur de la remarque que tu m'as faite en sortant. Je ne sais pas si tu t'en souviens. D'accord. Encore un peu plus petit, ça aurait été quasiment des toilettes. Non, c'était pas ça. J'ai pas dit ça. Je me souviens pas, je me souviens. C'est sûr que c'est pas un des deux autres. J'étais mal compris, tu sais, j'étais un peu.
Non, bah, je suis sûr que c'est elle qui l'a dit, alors
non.
Je mets ma main au feu.
Voilà, mais sans aller. Enfin, c'est les toilettes dans le sens positif.
On parle très peu du sens positif des toilettes, Marie-Ève, c'est vrai. Tu veux nous parler des anguilles dans les toilettes aussi?
Je voulais faire une chronique sérieuse, quoi, tu
vois. C'est le drame de ta vie.
Donc, pour ne pas plagier Caroline, donc, la salle était vraiment très petite, à tel point que je me suis retrouvée dans un coin près de la porte, cette fois-ci la porte par laquelle nous sommes rentrés, par le bac à sable, alors que mes acolytes, eux, étaient au troisième rang, c'est-à-dire quasiment au fond du théâtre.
C'est oui, dire. C'est ça.
La simplicité donc, et je parlerai même de rusticité du cadre. Le cadre, donc aussi celui que l'on retrouve sur la scène, avec cette impression, je me suis retrouvée un peu dans le musée alsacien de Strasbourg, que je connais bien, devant la vitrine, menuiserie, où il y avait aussi les copeaux, et puis les tablis, et les tréteaux. Et justement aussi la rusticité de ces tréteaux, non pas ceux sur lesquels sont montés les acteurs, mais ceux qui trônaient au milieu du décor en bloquant presque le passage de ces acteurs. La simplicité aussi qui m'a touchée, c'est celle donc des personnages incarnés par ces mêmes acteurs. J'avais bien peur au début de la pièce, en n'ayant plus fréquenté Ibsen depuis très longtemps, de ne pas m'y retrouver. Pensez-vous à une intrigue qui mélange 5 pièces différentes, et qui plus est que je ne connaissais pas. Et cette histoire de canard sauvage au début, je me suis dit, c'est louche, donc où est-ce que je m'embarque? Mais très vite, tout s'est déroulé de façon limpide. Les figures féminines se sont vraiment succédées sans se ressembler, chacune étant vraiment typée pour incarner une sorte de facette de la femme avec un grand F. Je citerai par exemple Hedwig, Eda, enfant-femme, fragile et forte à la fois, ou encore Gunhild, la fiancée et épouse à la fois désirée et repoussée, ou alors Ella, la femme volontaire qui vient déranger la vie de sa rivale et pourtant proche, à la fois dans la jeunesse et dans l'âge adulte, et puis Susanna, enfin, cette femme discrète mais pilier et solide et indispensable, pilier donc autour duquel tourne toute la vie d'Ibsen et même toute la pièce.
C'est sa femme.
Oui, c'est ça. Et parfois, justement, ce que j'ai un tout petit peu regretté là, c'est ce manque parfois de différenciation entre les femmes réelles et les femmes héroïnes de la pièce. Mais qu'importe, parce que finalement, on se prend au jeu, c'est le cas de le dire. Au jeu des acteurs aussi, et surtout des actrices, qui est lui aussi tout empreint de simplicité. Comme... cette voix bien rauque de Ella qui m'a fait frémir à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Et le jeu aussi facétieux de Hedwig et Eda, pour ne citer que les deux plus marquantes. Ensuite, ce qui m'a touchée en deuxième, ce sera moins long, c'est les effets de surprise que j'ai ressentis en spectatrice jeune fille naïve et ingénue, à la fois dans le jeu et dans les acteurs. Et là encore, Hedwig et Eda était peut-être la plus surprenante de toutes. Et c'est là aussi un point important, donc ces surprises qui jalonnent la pièce et qui la rythment, qui lui donnent finalement son souffle. Moi, à chaque fois, éveillée quand je m'endormais dans une rêverie et me faisait revenir avec un peu d'ironie finalement à ce premier rang de théâtre. Et ces femmes effectivement cachées qui surgissent tout à coup, ou bien encore ce coup de talon sur le coffre. Et comme j'étais au premier rang, moi je l'ai pris vraiment comme un coup de talon. Et c'est après, effectivement, en réfléchissant un peu, je me dis oui, mais c'est le pistolet qui dont la femme se sert pour tirer. Et donc là, je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs de se mettre au premier rang pour mieux déguster ces petits effets scéniques qui sont très intéressants à observer. Ces petits trucs et astuces qui font aussi partie des surprises. Et la surprise, enfin, elle se trouvait aussi dans tous ces enchaînements de pièces les unes après les autres dans lesquelles on était finalement emporté sans plus se demander mais de quelle pièce il s'agit ou quoi que ce soit, et qui qui aussi ces surprises qui venaient aussi au détour d'une voix, VOIX ou VOIE, comme ce fameux poème de Baudelaire à une passante qui éclairait encore l'ensemble de la pièce d'un autre jour. Et ces surprises pourtant s'enchaînaient dans une forme d'harmonie que j'ai trouvée j'ai pas trouvé comme toi, Will, que ça pouvait être plutôt haché ou faire un
juxtaposé.
Voilà, moi j'ai vraiment senti un effet d'ensemble harmonieux. Et enfin, et là je vais être encore plus personnelle, la troisième chose qui m'a beaucoup touchée, c'était les effets d'écho que j'ai ressentis par rapport à Ibsen et par rapport aussi à ce qui peut me toucher dans ma propre vie. J'avais vu avant de voir cette pièce, il y a fort longtemps, deux pièces d'Ibsen, Brandt, où Ibsen disait « c'est moi-même dans mes meilleurs moments ». Alors c'était plutôt une pièce très déprimante, donc j'ai trouvé que Ibsen ne devait pas être un personnage très rigolo. Et j'avais vu aussi La Maison de Poupée, pièce beaucoup plus connue, dans une mise en scène très vive avec la compagnie Maboumaine qui avait utilisé, dont les acteurs principaux étaient des nains pour vraiment montrer la différence entre les hommes de petite taille et la femme qui n'arrivait pas à trouver sa place là-dedans. Et finalement, j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais connue dans ces deux pièces à la fois, en synthèse dans la pièce proposée Chambre avec vue sur fond des mers. J'ai retrouvé un peu, pour faire court aussi, toutes ces thématiques de l'évolution des femmes et de la place qu'elles essayent de trouver aussi, à la fois par rapport aux hommes et entre elles, et aussi à la fois ce mélange un peu, pour résumer, entre deux caractéristiques d'Ibsen, l'alcoolisme et le mysticisme. Je vous laisse méditer là-dessus. Et pour terminer, enfin, tous ces effets d'écho m'ont fait penser aussi à cette comparaison utilisée dans les vieux romans médiévaux. Là, ce sera un clin d'œil positif.
Merci.
Dans le roman de La Rose et autres. Cette pièce montrait à la fois l'amour, avec un grand A, avec toutes ces amantes qui cherchent, et l'amant qui cherche aussi ses amantes, mais aussi l'amour, la mère, comme disaient les anciens, la mère, l'amertume de ces femmes qui sont confrontées finalement à la réalité et où rien ne va comme elles veulent. La mère aussi, pour la mère, M-E accent grave R-E, qui est la suite de l'évolution des femmes dans cette pièce et qui là aussi pose problème. Et enfin, après l'amour, la mère, et les mères, la mort. Et tout cela encore dans ce grand mystère des mères, la mère, cette fois-ci M-E-R, et les mères dans lesquelles nous plonge profondément cette pièce.
Je pense que c'est très important ce que tu as dit, Marie-Ève, à un moment, que justement ça t'avait marqué par rapport à des thèmes qui toi t'étaient chers, parce que je pense que c'est ça une grande force aussi de cette pièce, c'est qu'elle est très, très forte, très ouverte, ce qui fait que je pense que chacun peut trouver un truc qui le marque dans la pièce.
Eh bien c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, merci à vous trois. Après Trace, encore un très beau spectacle au Théâtre des Marronniers, avec Chambre avec vue sur le fond des mers donc. Si vous avez envie de sortir un soir, vous êtes prévenu maintenant. Si vous avez envie d'une sortie de théâtre, regardez la programmation du Théâtre des Marronniers. Elle est de très bonne qualité. La pression est du côté du Théâtre des Marronniers. Attention à la prochaine pièce que nous allons voir. Espérons que l'adage se vérifie. Jamais 203. Alors notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Un grand merci à mes quatre chroniqueurs exceptionnels, Marie, Caro, Marie-Ève et Will. Pour de nombreuses raisons, cette émission, c'est mon cadeau de Noël en avance. Merci à Xavier, Antoine et Fabien, la technique. Sans eux, vous ne pourriez pas entendre nos émissions, alors merci à eux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, des fêtes en musique, puisque pendant les vacances, nous vous rediffuserons le concert du Club de Musique de Chambre qui avait lieu le 13 décembre dernier, avec au programme Debussy, Ketelbé, Chopin et Shostakovich. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles émissions culturelles. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.